l'Amérique. Keep America great. Avec Valérie Beaudoin.
Oh, j'adore votre intro.
Je l'aime, moi aussi.
Oh, que c'est bon. Jimi Hendrix et puis, évidemment, James Brown. James Brown. Le G7 se réunit à Biarritz. Je prends 10 secondes, Valérie, pour vous dire que c'est beau, Biarritz.
Oh. Oh oui, je suis déjà allée aussi.
Oh, c'est sur la côte atlantique, en France, donc tout près de l'Espagne et du Pays basque. Vous êtes au Pays basque, d'ailleurs, il y a eu des manifestations, parce que ça fait des années qu'on manifeste pour l'indépendance du Pays basque, le Euskadi, qu'on aimerait avoir comme pays, enfin pour certains qui y pensent. Mais c'est beau, c'est beau. C'est comme un peu la Côte d'Azur, mais sur la côte atlantique. Alors, toujours est-il que le G7, tout le monde me dit, les sept, c'est qui? Bien, évidemment, l'Allemagne, le Canada, les États-Unis. Puis attendez, là, j'y vais par cœur. Le Japon, le Royaume-Uni, la France et l'Italie. C'est tout ça?
Voilà.
Là, il manque la Russie, oui. Parce qu'avant, c'était le G8.
Oui, puis c'est dans les discussions aujourd'hui, hein? Parce que Trump a encore remis ça sur la table. Parce qu'il veut le retour de la Russie.
Et est-ce que c'est encore cette année que le président Trump va claquer la porte, va retenir l'attention, va sortir de là en disant « c'est moi qui ai mené les discussions et qui ai mené le show ».
C'était beau l'année passée aussi, Charlevoix, hein? Mais finalement, ça s'est mal terminé avec, on se rappelle, on a encore un peu le traumatisme de Trump qui avait déchiré l'accord à bord d'Air Force One en disant à Justin Trudeau là, qu'il l'avait trahi puis que c'était un hypocrite. Bon, aujourd'hui, ça semble bien se passer. Je vous dirais qu'il dit que c'est les médias qui vont donner un mauvais portrait de ce qui se passe en ce moment au G7. Il a rencontré, je disais tout à l'heure, Boris Johnson, hein? Il l'adore, le nouveau premier ministre britannique. Donc, on sent qu'il veut peut-être faire un petit peu plus de cohésion, mais Trump, bien sûr, ne fait pas l'unanimité et partout où il passe, c'est certain qu'il peut avoir des échos. D'ailleurs, on ne sait pas s'il va avoir un accord commun à la fin. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu le suspense.
Importante rencontre entre Justin Trudeau et Donald Trump aujourd'hui. Je dis importante pour Justin Trudeau parce que c'est lui qui a malheureusement eu l'air fou quand Trump avait déchiré l'accord à la sortie de Charlevoix lors du sommet ici qui avait eu lieu au Québec. Et M. Trudeau avait été pris de court, il ne savait plus quoi dire. Enfin, ils ont même pensé, son entourage, que c'était une fake news, c'est-à-dire que c'était des gens qui avaient tweeté à la place du président américain pour embarrasser le premier ministre du Canada.
On était vraiment surpris parce que Justin Trudeau, qui s'était un peu tenu debout en point de presse en disant, ben, ça n'a pas de bon sens, les tarifs. On se rappelle à l'époque, c'était les tarifs sur l'acier et l'aluminium qui étaient vraiment de ce dont on parlait. Et là, on a Trump qui voit ça à bord d'Air Force One et qui s'était mis à tweeter frénétiquement.
Et parlant de tarifs, tout le monde est inquiet parce qu'on parle de cette guerre commerciale avec la Chine. Il a été extrêmement menaçant. Il a imposé des tarifs au cours des derniers jours à hauteur de 30 % et même il menaçait hier de forcer des entreprises américaines à quitter la Chine.
Oui, rien de moins. Hein, parce qu'on le sait, là, cette guerre commerciale-là, ça fait peur. On en parle au G7 d'ailleurs parce que ça peut avoir un effet sur l'économie mondiale. Et on l'a déjà senti le vendredi avec les tweets frénétiques de Trump, l'effet que ça a eu sur la bourse. Parce que c'est un peu toujours le même cercle. Hein. Trump impose des tarifs, on menace, on a des discussions, il y a une trêve. Et si ça ne va pas bien, on recommence. C'est ce qui se passe avec la Chine depuis plusieurs mois. Et là, la Chine qui a imposé de nouveaux tarifs sur 75 milliards de biens dès le 1er septembre. Et là, on a l'impression que c'est ça qui a déclenché cette fureur-là, cette colère-là. Et là, ce qu'il disait, et tu l'as mentionné, Paul, c'est on demande aux entreprises américaines, ils les commandent à quitter la Chine.
Est-ce qu'il a le droit de faire ça?
Et ça, c'est la grande question. Parce que lui, il se base sur une loi de 1977 qui dit qu'en cas d'urgence, en cas de situation exceptionnelle, on peut avoir des gels de tarifs, on peut avoir des sanctions commerciales. Ça a été utilisé, entre autres, avec l'Iran. Et là, on se dit, dans un contexte comme ça, est-ce qu'on peut l'utiliser? C'est pas un ennemi, c'est pas la Syrie, c'est pas l'Iran, c'est pas la Corée du Nord. C'est quand même la Chine qui est un partenaire commercial.
Non seulement ça, il y a des compagnies comme Apple qui, vendredi, en bourse, ont perdu près de 5 % de leur valeur. Tout ça sur l'imposition des nouveaux tarifs contre la Chine. Alors, tu te mets à la place de Apple, qui a évidemment une très forte présence en Chine. Le coup de téléphone de la part du président américain, sortez de là. Tu sais, il y a un côté extrêmement inquiétant. Ça, comme tu dis, il se basait sur une loi d'urgence.
Exactement.
Là, c'est pas l'urgence, là.
Non.
Les États-Unis ne sont pas en guerre total avec la Chine.
C'est ça, mais lui, il dit qu'en raison des cyberattaques, en raison de la propriété intellectuelle, il y a toujours des raisons sous-jacentes. Et là, je vous dirais que les juristes aux États-Unis se grattent la tête à savoir si vraiment, dans le cas où il décide de le faire, parce que là, il a reculé au G7, il l'a dit, hein. Je le ferai pas, mais j'ai le droit de le faire. Alors, il se garde toujours ça un peu dans sa petite poche en arrière, de dire qu'il pourrait demander aux gens là, de quitter la Chine, aux entreprises. Et peut-être, Paul, tu vas trouver la comparaison intéressante. Il y a un ancien, c'est Hank Paulson, qui est un ancien secrétaire au Trésor qui était sous Bush, qui a dit « J'ai peur d'un rideau de fer économique entre la Chine et les États-Unis à un tel point que ça peut s'envenimer tout ça. »
Ben, on sait pas.
Je trouve qu'il se garde beaucoup de petites choses dans sa poche en arrière.
Puis il dit beaucoup de choses, puis il change d'idée aussi après. Moi, fait que ça donne une latitude, on va dire ça comme ça.
Moi, Thérèse et Valérie, à l'autant que mon Huawei fonctionne.
Ah ben,
oui. Mais profite-en parce que ça se pourrait qu'il arrête d'un coup à un moment donné.
Est-ce qu'il fonctionne aux États-Unis?
En autant que mon Huawei a du jus, les Républicains. Oui. On écoute, l'histoire de la semaine, évidemment, le Groenland. Les Républicains qui veulent faire de l'argent avec le projet d'achat du Groenland.
Oui. Maintenant, il y a une nouvelle stratégie, Paul. Paul, on se connaît quand même bien. Je sais que t'aimes les T-shirts de collection, que t'aimes les choses vintage, les choses exceptionnelles. Et là, je vais te présenter, il y a des T-shirts qui sont vendus actuellement avec un 51e État.
C'est dans l'air qu'on ne soit pas en Facebook. Ah, ben oui.
Alors, on peut voir si visuellement une carte et on ajoute le Groenland au-dessus des États-Unis, le 51e État. Alors, c'est le Comité national républicain pour le Congrès qui veut financer une campagne, bien sûr, antidémocrate et pro-Trump. Alors, on vend ce beau T-shirt-là à 25 $ Paul, si tu veux te faire plaisir pour ta fête, on peut peut-être se cotiser aussi.
Vous auriez pu me donner ça pour ma fête.
Ben oui, écoute, j'y ai pensé, mais il faudrait que je fasse un don.
Mais je l'aime, votre carte Tim Horton. Thérèse, pour vrai, c'est très pratique.
Alors, ils disent que c'est pour encourager les efforts de Trump à faire grandir l'Amérique.
Mon ami Bernard Voyer a traversé le Groenland à pied, lui. Enfin, à ski. Ouais. Lui, il l'a fait au complet à ski. Donc, il connaît ça, le Groenland. Et puis, il se disait, ils sont mieux de se dépêcher, les Américains, à acheter le Groenland parce que la calotte est en train de fondre.
Il y a un sentiment d'urgence.
Ben, c'est-à-dire que la vente au pied carré est en train de s'amenuiser un peu. Mais les Américains, dans l'histoire, on s'est écrit cette semaine là-dessus, Valérie, ils ont déjà acheté. Ils ont acheté l'Alaska.
Oui. Ils ont acheté la Louisiane aussi.
Ils ont acheté la Louisiane de Napoléon. Oui. Début du 19e siècle, je pense en 1803. Mais la Louisiane, à ce moment-là, ça s'étendait, écoute, jusqu'en Saskatchewan. Oui. C'était absolument immense. À surveiller cette semaine, demain, lundi, Harvey Weinstein, plus tard, Henri Arnault, en direct d'Hollywood, nous parle de cette nouvelle accusation à laquelle il pourrait faire face dès demain à New York.
Oui, donc ça va être à surveiller parce qu'on le sait, dans la foulée du mouvement MeToo, je dirais même que c'était le catalyseur du mouvement MeToo, Harvey Weinstein. Alors, pour la société américaine, on s'éloigne un peu de la politique, mais Harvey Weinstein, c'est vraiment, ça a eu un rôle. Alors, il va comparaître lundi matin devant un tribunal de New York, mais je vais vous laisser tous les détails avec votre correspondant là-bas. Mais quand même, ça va être intéressant de voir parce qu'il va être présent en cours pour plaider non coupable.
Apparemment que c'est le cas, Valérie et Thérèse, de l'actrice des Sopranos.
Oui.
C'est ça?
Exactement, moi aussi, c'est ce que j'ai vu. Alors, je cherche son nom dans mes notes, mais c'est l'actrice des Sopranos. Alors, Annabella
Sciorra, oui.
Bon, mon italien n'est pas bon.
Et qui aurait été agressée, violée par Harvey Weinstein.
Exactement.
Thérèse,
il y a des noms dont il paraîtrait qu'il y aurait d'autres noms qui sortiraient dans cette histoire-là.
Alors, demain, à suivre, et Henri Arnault va nous mettre la table pour savoir où il est rendu dans son dossier. Thérèse, on a des commentaires depuis que notre thématique de l'heure, c'est « Avez-vous peur des orages, mais avez-vous déjà vécu des situations dangereuses? »
On a aussi plein de vœux de fête pour toi, Paul.
Ah, mais c'est fin.
Et il y a Mylène Farmer. En fait, c'est pas Mylène, mais c'est via un de nos auditeurs qui dit « Dites à Paul que Mylène Farmer lui souhaite un heureux anniversaire. »
C'est pas vrai. Et je marche
J'ai quelqu'un d'autre, moi aussi, qui veut te souhaiter un heureux anniversaire. Ah, non, ce n'est pas Donald Trump, malheureusement, mais j'avais sorti quelque chose pour l'occasion... Pour la chronique de politique américaine, on peut laisser.
Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Oui. Ça, c'est Marilyn qui chantait pour le président JFK.
Oui, pour ses 45 ans.
Arrêtez, Thérèse, de mentir. À chaque année, lorsque je suis en onde, mesdames, messieurs, je demande à mon équipe de recherche, pour qui j'ai le plus grand respect, mais qui échoue lamentablement à chaque année.
Oui, c'est ça.
Il faut capable de me donner un petit vœu de Mylène Farmer à partir de France. Bonjour, Paul, Mylène Farmer. Et puis,
tu l'as jamais.
Je ne l'ai jamais. Puis à un moment donné, je pense que je travaillais avec Marie-Hélène Proulx. Pas sûr. Oui, je pense que c'était avec Marie-Hélène Proulx à Rythme FM. Alors, je suis animateur du matin, c'est ma fête et tout ça. Puis Marie-Hélène a dit, écoute, on a des vœux extraordinaires et spéciaux pour toi. Et là, c'est, bonjour Paul, c'est Mylène. C'est Mylène Farmer. Je pense à toi en cette journée. Et là, je suis incapable de dire un mot. Ils ont réussi. Ils ont réussi à demander à Mylène. Et puis, ben non, c'était quelqu'un dans l'entourage. Je pense que c'est
Marie-Hélène. Dans l'entourage, oui, tout
bah,
à fait,
oui,
dans l'entourage.
Qui s'était pris un accent français qui faisait ça. Donc, je ne vous crois pas.
Mais tu vas peut-être l'avoir d'ici la fin de l'émission. Sait-on jamais, d'ici la fin de l'émission.